La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, auditrices. Je suis Patrick Saporito, donc de l'église protestante baptiste de Cahors. Je continue donc de parcourir les sept lettres aux églises de l'Apocalypse et nous en arrivons à l'église de Thyatire. Il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Mais supposons que par manque d'œufs frais, vous faites le compromis de mettre un seul œuf pourri dans l'omelette. Eh bien, c'est toute l'omelette qui aura mauvais goût, n'est-ce pas? Après, donc, la troisième lettre à une église qui manque de discipline, celle de Pergame, voici la quatrième lettre, la plus longue, adressée à une église en partie fidèle, mais avec des compromis, celle de Thyatire. Lorsque Satan n'a pas réussi par la violence, il essaie les compromis et la débauche pour faire tomber l'église, comme pour Pergame. Un commentateur a écrit ceci: à Thyatire, la menace ne venait pas de l'extérieur de l'église, de la persécution, du culte païen ou impérial. Elle venait de l'intérieur de l'Église, de ceux qui, dans l'Église, proposaient de prendre vis-à-vis du monde la plus dangereuse de toutes les attitudes, une attitude de compromis. Fin de citation. Lisons donc la lettre à l'Église de Thyatire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, versets 18 à 29. Écrit à l'ange de l'Église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc jusqu'ici, la parole de Dieu. De ce texte, nous pouvons affirmer que pour avoir la victoire sur nos ennemis, eh bien, il nous faut rester fidèles au Seigneur sans compromis. Pour avoir la victoire sur nos ennemis, restons fidèles au Seigneur sans compromis. Pour cela, eh bien, je vous propose de voir premièrement quelles sont les conséquences de l'infidélité et de ses compromis. Puis, nous verrons comment rester fidèle au Seigneur. Puis enfin, nous verrons quels sont les fruits de cette fidélité au Seigneur. Déjà, voyons le contexte historique de l'église de Thyatire. Thyatire était la plus petite des sept villes citées. La population était très mélangée. Les religions se mêlaient et même se mélangeaient entre elles. La ville était connue pour son commerce. Dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 14, il y est question de Lydie, je cite, « une marchande de pourpre de Thyatire ». Lydie était une fidèle chrétienne, et la pourpre était l'une des industries prospères de la ville. Mais une contrainte commerciale pour les artisans les poussait à appartenir à une corporation, un genre de syndicat, si vous voulez, pour tenir économiquement. Travail et religion y étaient mélangés. Vous savez, ça fait penser au saint patron de l'Église catholique, par exemple, le patron des artisans chaudronniers. Les chrétiens étaient mis donc devant le choix de participer ou non aux banquets de ces syndicats, avec des viandes sacrifiées aux idoles. Ces banquets se terminaient souvent en orgie, et il n'y avait qu'un pas pour y tomber, avec pour excuse « les affaires sont les affaires, il faut bien vivre ». Je vous propose de voir premièrement les conséquences de l'infidélité au Seigneur et les conséquences des compromis. Il y avait clairement deux groupes dans cette église de Thyatire. Après avoir fait l'éloge du groupe Restez fidèles au Seigneur, et quel éloge, je vais y revenir, le Seigneur annonce le problème lié à une certaine Jézabel qui se disait prophétesse, et ceux qui se sont laissés séduire et entraîner dans la débauche par elle. Le deuxième groupe, donc. Dans l'Ancien Testament, dans les deux livres des rois, on apprend que Jézabel était une reine cruelle et païenne, accusée même de prostitution et de sorcellerie, qui a entraîné son mari, le roi juif Akab, et aussi tout le peuple dans l'idolâtrie. Elle tenta d'abolir le culte de l'Éternel en persécutant les prophètes pour le remplacer par le culte de ses idoles. Ici, Jézabel peut désigner une femme qui se disait prophétesse, ou symboliquement un groupe d'enseignants qui se disaient prophètes et qui prétendaient qu'au nom de la liberté chrétienne, on pouvait pratiquer débauche et idolâtrie dans l'Église sans commettre de péché. Ça nous rappelle les doctrines de Balaam et des Nicolaïtes à l'Église de Pergame. Mais à l'Église de Thyatire, le mal a fait un pas de plus par rapport à Pergame. À Thyatire, ce ne sont plus les faux docteurs, mais des faux prophètes qui entraînaient les croyants dans ces mêmes péchés. Et c'est d'autant plus grave qu'un prophète est celui qui parle de la part de Dieu. Jézabel prétendait être prophétesse, alors ses paroles avaient du poids, et beaucoup se sont laissés séduire par manque de discernement. Les faux prophètes étaient passibles de mort dans l'Ancien Testament, en Deutéronome chapitre 18, verset 20, vous pouvez le lire. Cette Jézabel voulait régner, dominer sur l'Église, comme la reine Jézabel voulait régner sur le peuple dans l'Ancien Testament. Comment s'y prenait-elle? Elle introduisit dans l'Église une sorte de syncrétisme pagano-chrétien. Je m'explique. Le syncrétisme consiste à mélanger le culte de l'Éternel, bibliquement parlant, avec la participation à des cérémonies païennes. C'était le cas des Samaritains, ce qui leur causait la haine des Juifs. Et dans certaines églises, le syncrétisme se caractérise par le fait que la croix de Jésus mort et ressuscité pour nos péchés n'est plus au centre du culte. N'est-ce pas du syncrétisme que de mélanger le culte chrétien, ses prières bibliques, le Notre Père, avec l'adoration de la Vierge et des saints, qui sont devenus des idoles malgré eux? Parce que le premier des 10 commandements nous dit bien « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » en Exode chapitre 20, verset 3. Le syncrétisme de Jézabel était une solution séduisante pour les artisans et les marchands de Thyatire, tiraillés entre leur fidélité au Christ et leurs intérêts économiques et professionnels. Jézabel les délivrait de leur cas de conscience en leur disant en quelque sorte « Vous pouvez tranquillement participer aux fêtes de votre corporation. Un chrétien est un homme libre. Les idoles ne sont rien et l'âme n'est pas affectée ni souillée par ce qui se passe dans le corps, le corps n'étant pas important. » Quelle grossière erreur! Voyez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. C'est une erreur parce que le corps du chrétien est devenu le temple du Saint-Esprit, qu'il faut donc respecter. Sur le plan des connaissances, Jézabel leur proposait l'exploration, je cite, « des profondeurs de Satan », verset 24. Les chrétiens qui la suivaient dans cette voie pensaient être plus forts en prétendant connaître les profondeurs de Satan. Certains chrétiens pensent qu'il n'y a pas de mal à fêter Halloween, ou bien qu'il n'y a pas de mal à regarder un film d'horreur ou de sexe. Si vous ou vos enfants vous posez la question de savoir si c'est bien ou mal pour un chrétien qui se dit libre, eh bien, je vous propose un test imparable. Inviterais-tu Jésus à s'asseoir à côté de toi sur le canapé pour regarder de tels films, connaissant la nature parfaite et pure de Jésus-Christ? Le problème est lorsque l'esprit du monde pénètre l'Église, alors que c'est l'esprit de Dieu qui devrait rentrer dans le monde. Pour être plus fort, nous devrions rechercher les profondeurs de Dieu, ce qu'il veut d'ailleurs, pas celle de Satan. L'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 13, c'est l'Éternel qui parle, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Fin de citation. Le reproche que le Seigneur adresse à l'église de Thyatire, malgré toutes ses qualités, est qu'elle a laissé faire. Elle a laissé entrer les compromis dans l'église. Alors, eh bien, le Seigneur intervient lui-même. Comme au début de chaque lettre, il se présente lui-même selon une description adaptée à la situation, pour la pousser à se repentir. Ici, il est, je cite, verset 18, « celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent ». Fin de citation. Il se présente aussi comme, je cite, verset 23, « celui qui sonde les reins et les cœurs. Fin de citation. Personne ne voit réellement dans les cœurs, sauf le Seigneur. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Vous avez remarqué l'insistance, une flamme est forcément de feu. Le feu non seulement chauffe, mais éclaire aussi. Non seulement le Seigneur voit parfaitement dans les cœurs, mais aussi il éclaire, il met en lumière les intentions cachées du cœur et les mauvaises œuvres. Nul n'y échappe. Si on peut tromper les hommes, on ne trompe pas le Seigneur. Quelles sont, à la longue, les conséquences de se laisser séduire et de ne pas se repentir? Eh bien, la personne finit par s'endurcir et ne distingue plus le bien du mal, le vrai du faux. Elle perd son discernement. Et la conséquence finale est le jugement que Jésus lui-même annonce et que rappellent ses pieds semblables à de l'airain ardent. Vous savez, on ne s'approche pas comme ça d'un feu incandescent, d'un matériel en fusion. Le verset 23 nous dit « Je ferai mourir de mort ses enfants ». Fin de citation. Remarquez l'emphase « mourir de mort ». On voit la colère divine de Jésus contre de tels faux prophètes séducteurs. Le lit de plaisir de Jézabel va devenir un lit de douleur, à moins qu'elle et ses disciples ne se repentent. Vous vous demandez peut-être où est la grâce là-dedans. Eh bien, c'est justement parce que Dieu veut faire grâce qu'il ne punit jamais sans avoir donné le temps et la possibilité de se repentir, ce qu'il a fait même pour une Jézabel et ses enfants spirituels, avant que le jugement ne tombe. Voilà la preuve de son amour pour tous. Les laisser faire ce qu'a fait l'église de Thyatire n'est pas de l'amour, parce que cela aboutit inévitablement au jugement. C'est par de tels jugements que les églises se rendront compte que Dieu voit tout et sonde les reins et les cœurs, c'est-à-dire nos émotions, notre intelligence, nos motivations. Mais une autre frange de l'église de Thyatire est restée fidèle au Seigneur. Vient alors la question qui se pose à tout un chacun qui aime le Seigneur. Comment le chrétien peut-il rester fidèle au Seigneur jusqu'au bout? Eh bien déjà, c'est lui-même qui nous le demande, alors c'est possible, même si ce n'est pas toujours facile. Mais il nous demande de compter sur lui. Grâce à ses yeux comme une flamme de feu et parce qu'il voit dans les cœurs, il prend bien soin de faire remarquer à l'église de Thyatire qu'il connaît aussi toutes leurs bonnes œuvres pour lui. Quelles sont ses œuvres? Verset 19, je cite, « Ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Fin de citation. Que d'éloges! L'église de Thyatire ne stagne pas. C'est même une église en progression dont, je cite, « les dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières ». Et qui, contrairement à l'église d'Éphèse, a gardé son amour que Dieu voit. Tous les chrétiens devraient désirer sérieusement que leurs dernières œuvres soient meilleures et plus nombreuses que les premières. La vie chrétienne est d'aller de progrès en progrès. Soit une église rétrograde, soit elle grandit. L'église n'est pas faite pour stagner. C'est comme pour escalader une montagne. Si on n'avance pas, on recule. Si les chrétiens de Thyatire sont devenus plus sages et meilleurs, c'est à cause de leur persévérance, leur constance et de la grâce de Dieu qui agissait dans l'église. Mais le plus important, ce ne sont pas nos œuvres. Aussi importantes, nécessaires et bonnes soient-elles. Même évangéliser, qui est un commandement du Seigneur, n'est pas le plus important. Et même, on peut être tellement occupé à faire beaucoup de choses pour le Seigneur que parfois, on se charge d'œuvres qu'il ne nous a pas demandé d'accomplir. La leçon qu'on peut tirer de cette lettre est qu'avant de faire beaucoup de bonnes œuvres, le plus important, ce qui compte aux yeux du Seigneur qui voit tout, la première œuvre qu'il attend de nous, c'est que nous nous gardions purs, sans compromis, sans syncrétisme. Voilà où doit commencer notre fidélité au Seigneur. Il s'agit d'éviter absolument les péchés d'idolâtrie et de débauche pratiqués par ces faux prophètes, ces péchés déjà condamnés pour l'église de Pergame. Éviter ces péchés était aussi la seule charge que les non-juifs, qui ne connaissaient pas la loi juive, devaient porter, pour se porter bien. Comme le rappelle l'apôtre Paul en Actes 15, versets 28 et 29. N'échangeons pas la vérité contre les fausses doctrines, sinon ça serait prêter le flanc à l'ennemi. Inversement, vouloir se garder pur est une protection, selon cette promesse que nous trouvons dans la première lettre de Jean, chapitre 5, verset 18, je cite, « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Fin de citation. Se garder pur, porter des fruits dignes de la repentance, est le premier fardeau que Dieu nous demande de porter. Verset 24, je cite, « Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. » Fin de citation. Voilà le sacrifice que Dieu nous demande. Tiatir veut dire sacrifice perpétuel. Il s'agit à la fois de se garder pur, mais sans pour autant laisser tomber les autres bonnes œuvres mentionnées au verset 19. D'ailleurs, le Seigneur dit au verset 25, « Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Fin de citation. Alors, qu'est-ce qui va nous motiver à non seulement nous garder purs, mais aussi à nous lever pour servir le Seigneur? Eh bien, c'est la perspective de son retour qui est certain. Est-ce que vous l'attendez fidèlement? Si oui, il devrait en sortir du fruit qui vient du Seigneur. C'est ce que je vous propose de voir maintenant. Quels sont les fruits qui découlent de notre fidélité au Seigneur? Eh bien, Jésus promet une récompense à celui qui aura persévéré jusqu'au bout. Quelle est-elle? Alors déjà, on se rappelle qu'on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres. Le salut, ce n'est pas une récompense, c'est un don de Dieu donné à quiconque croit que Jésus est mort et ressuscité pour lui et qui s'est repenti de ses péchés. C'est lorsqu'on a accepté ce salut en Jésus-Christ qu'on peut faire des bonnes œuvres. Déjà au verset 23, on a cette promesse qui s'applique non seulement aux incroyants, mais aussi aux croyants fidèles. Je cite « Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres ». Fin de citation. Les œuvres du croyant fidèle jusqu'au bout prouvent l'authenticité de sa foi. Le Seigneur qui a les yeux comme une flamme de feu connaît les œuvres que nous accomplissons pour lui, en Église et individuellement. Celles qui sont faites dans l'amour, la foi, le zèle et la patience. Et ces œuvres, il les mettra aussi en lumière et il nous rendra selon nos œuvres par une juste rétribution. Cette rétribution, eh bien, elle sera de régner avec lui, selon le verset 27, qui est une citation du psaume 2, verset 9. Je cite « Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Fin de citation. Psaume 2, 9 s'applique à Jésus. Et le quasi identique verset 27 du chapitre 2 de l'Apocalypse s'applique à l'Église victorieuse et à chaque croyant. Les chrétiens nés de nouveau auront les mêmes privilèges qui reviennent à Jésus lui-même et qu'il a reçus de son Père, à savoir l'autorité sur les nations. Il y aura renversement de situation. La domination que Jézabel, une frange de l'église de Thyatire, a voulu exercer avec arrogance est promise à ceux qu'elle a opprimés. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont opprimés dans beaucoup de pays, mais un jour ça changera. Ils régneront aussi avec Christ. Face à l'endurcissement de ceux qui n'auront pas voulu se repentir, Jésus promet l'affermissement de ceux qui lui seront restés fidèles, pour qu'il soit apte à régner avec lui dans une position d'autorité et de fils. Endurcissement des uns, affermissement des autres, qui sont les vrais vainqueurs. Et ce n'est pas tout. En plus de l'autorité sur les nations, Jésus donnera à ceux qui auront persévéré l'étoile du matin. Alors, quelle est-elle, cette étoile du matin? Eh bien, de même que dans les autres lettres, la récompense suprême que Dieu promet à ceux qui lui seront restés fidèles est le don de sa personne. C'est lui-même Jésus l'étoile du matin. Apocalypse chapitre 22 verset 16 nous dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Fin de citation. Notre récompense sera de connaître intimement le Seigneur Jésus. Si vous avez déjà reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur en vous repentant et en croyant qu'il est mort sur la croix et ressuscité pour vous personnellement, eh bien cette étoile a déjà commencé à briller dans votre cœur. Mais elle n'a pas fini de briller et son éclat va de plus en plus croissant. De plus en plus, cette étoile nous donne du discernement pour discerner le mensonge de la vérité, tellement nécessaire aujourd'hui à l'ère d'Internet où l'information est si facilement falsifiable, gare aux fake news. Discernement nécessaire aussi à l'intérieur de l'Église pour reconnaître et chasser l'esprit de l'erreur. Que faire quand on a connaissance de personnes se prétendant inspirées qui veulent faire rentrer de fausses doctrines dans l'Église? Pas facile, on veut préserver l'unité, oui, mais pas à n'importe quel prix. Se dire c'est au pasteur de les reprendre, oui, mais pas seulement, sinon vous imaginez la charge sur ses épaules. Nous sommes tous concernés par la bonne santé de l'Église. Rappelez-vous l'omelette. Quand on entend quelqu'un dire « Dieu m'a dit que », eh bien on a besoin de discernement pour savoir si ça vient vraiment de lui. Je pense à cette personne il y a longtemps à qui quelqu'un est venu lui dire « Dieu m'a dit que tu devais te marier avec un tel ». Et la personne de couper court « Ah bon? Mais à moi, Dieu ne m'a rien dit ». Si quelqu'un se disant prophète vient vous annoncer une nouvelle révélation de la part de Dieu, attention! Tout ce que nous avons besoin de savoir est déjà consigné dans la Bible, qui est achevée. Et une parole prophétique ne contredit jamais ce que dit la Bible. D'où l'importance de la lire quotidiennement. Jésus, notre étoile du matin, est notre protection contre les séductions de Satan, contre les faux prophètes. Psaume 119, verset 130 nous dit « La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Fin de citation. Pour comprendre les choses de Dieu, notre intelligence ne suffit pas, la connaissance ne suffit pas. On a besoin d'une révélation de la part de celui qui a les yeux comme une flamme de feu, Jésus-Christ, l'étoile du matin qui nous éclaire. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et la bonne nouvelle est que le Saint-Esprit est donné à tout chrétien né de nouveau par Jésus-Christ, et non pas à une élite. Restons fidèles au Seigneur Jésus sans compromis pour avoir la victoire finale.
Numéro 1.